Et à 18h, c'est l'heure du journal d'Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Gérard Collomb sur le départ. Emmanuel Macron avait refusé la démission du ministre de l'Intérieur hier, mais Gérard Collomb veut quitter le gouvernement le plus tôt possible. L'Élysée prend acte. Tensions diplomatiques entre Paris et Téhéran. La France a gelé des avoirs iraniens et accuse le ministère du renseignement iranien d'avoir fomenté un projet d'attentat fin juin près de Paris. L'Iran dément. Mini-séisme politique au Québec. À l'issue des élections générales, la plateforme de centre-droit Coalition Avenir Québec s'impose très largement. Le Parti québécois subit, lui, une cinglante défaite. Et puis nous reviendrons sur le prix Nobel de physique attribué à trois chercheurs, dont le français Gérard Mourou, pour des travaux sur les lasers. Le 18 septembre, il avait fixé l'échéance de son départ de la place Beauvau à mai 2019 pour briguer la mairie de Lyon. Gérard Collomb va finalement partir beaucoup plus tôt. Il a proposé sa démission à Emmanuel Macron hier soir. Le président l'a alors refusé. Mais dans un entretien au Figaro, le ministre a redit aujourd'hui qu'il souhaitait démissionner et quitter le gouvernement le plus vite possible. Pour lui, Stéphane Robert, la situation était devenue intenable.
Non, ça n'était plus tenable. Lors des questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale, l'opposition s'est déchaînée. La droite notamment avec le député Éric Ciotti.
Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur du gouvernement et ce n'est pas acceptable et ce n'est pas supportable. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Le Premier ministre Édouard Philippe a fait face comme il a pu en offrant une réponse alambiquée.
J'ai connu comme vous, monsieur Ciotti, des membres du gouvernement qui, à une époque, considéraient qu'il était possible d'être membre du gouvernement et de solliciter un mandat. Ni vous, ni moi n'avons jamais dit à ces ministres de l'Intérieur, lorsqu'ils étaient candidats, soit à des municipales, soit à des présidentielles, qu'ils ne se consacraient pas pleinement à leurs tâches. Je vous propose, monsieur le député, de cesser cette hypocrisie.
Quelques minutes plus tard, à la sortie de l'hémicycle, les députés En Marche ont filé à l'anglaise en regardant le bout de leurs pieds et l'opposition a poursuivi dans le concert d'indignation. Guillaume Garot, par exemple, pour les socialistes.
On n'y comprend plus rien. Est-ce que vous comprenez quelque chose, vous? Hier, on nous dit qu'il a présenté sa démission. Finalement, le président la refuse. Et le lendemain, rebelote, il repropose sa démission. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ou encore Damien Abad, député Les Républicains du département de l'Ain.
Il faut lui permettre de partir. La France ne peut pas se permettre d'avoir un ministre de l'Intérieur absent qui ne veut plus de cette fonction-là.
Et puis en fin d'après-midi, Emmanuel Macron a compris que ça n'était plus tenable. Le président ne peut pas, sauf à se décrédibiliser, retenir un ministre qui ne veut plus assumer ses responsabilités. Il a donc déclaré attendre rapidement les propositions du Premier ministre pour remplacer le démissionnaire de la place Beauvau. Mais cette séquence n'est encore une fois pas à l'avantage du chef de l'État, et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle montre qu'il ne maîtrise pas la situation, il n'est plus le maître des horloges qu'il prétendait être. Ensuite, parce qu'après Nicolas Hulot, il perd un deuxième poids lourd du gouvernement, et un homme qui jusqu'ici apparaissait comme l'un de ses principaux soutiens, et tout ça donne une impression de fragilité. Et enfin, parce qu'à un poste aussi stratégique, il faut remplacer Collomb par quelqu'un qui doit avoir la confiance de l'administration et des forces de police et de renseignement, et en même temps en qui le président peut lui aussi avoir toute confiance. Autrement dit, Emmanuel Macron cherche là l'oiseau rare et il a très peu de temps pour le trouver.
Et c'est Édouard Philippe qui se charge de cette mission. Merci Stéphane Robert. La France gèle les avoirs de deux Iraniens soupçonnés d'être impliqués dans la tentative d'attentat du 30 juin dernier à Villepinte, près de Paris. Projet d'attentat qui visait un rassemblement d'opposants iraniens. Et également visé par cette mesure, une entité des services secrets iraniens. Cette sanction prise par la France confirme que Paris prend cette affaire très au sérieux, Bertrand Galichet.
Oui, trois mois après ce projet d'attentat contre un rassemblement de l'opposition iranienne à Villepinte, dans la banlieue nord de Paris, l'affaire prend une nouvelle tournure. Le 30 juin dernier, les Moudjahidines du Peuple, principale organisation d'opposition au régime des Mollahs, organisaient une réunion de 25 000 personnes. Dirigée par Mariam Radjavi, les Moudjahidines du Peuple sont installés en France depuis 1981 à Auvers-sur-Oise, près de Paris. Ils sont la bête noire du régime de Téhéran, qui les considère comme un mouvement terroriste. C'est au cours de ce rassemblement de Villepinte qu'un attentat à l'explosif était, semble-t-il, prévu. Attentat déjoué à temps grâce à une enquête menée par la sûreté belge et les autorités judiciaires françaises et allemandes. Résultat, l'arrestation d'un couple de Belges d'origine iranienne ainsi que l'interpellation en Allemagne d'un diplomate iranien et d'une de leurs relations. Téhéran dément toute implication dans cette affaire et s'insurge contre les mesures de rétorsion prises par la France. Le gel des avoirs pour une durée de 6 mois vise 2 ressortissants iraniens, mais aussi la direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement.
Et donc ces sanctions prises par la France, Bertrand, marquent une escalade entre les deux pays ?
C'est en tout cas un avertissement sérieux. Vous savez, le genre de signal entendu fort et clair à Téhéran. Pour Jean-Yves Le Drian, l'attentat déjoué à Villepinte confirme la nécessité d'une approche exigeante dans nos relations avec l'Iran. Traduisez, ce n'est pas parce que la France s'oppose aux États-Unis pour faire respecter l'accord sur le nucléaire iranien que Téhéran doit se croire tout permis. Et ces derniers temps, les messages de Paris à l'adresse des mollahs se multiplient. Florence Parly rappelle que l'activité balistique de l'Iran est considérée comme une menace. La rencontre mardi dernier aux Nations Unies d'Emmanuel Macron avec le président Rouhani n'a pas levé toutes les hypothèques. Et sur le plan diplomatique, le refroidissement est perceptible. La nomination d'un ambassadeur à Téhéran pour remplacer François Sénémaux, nommé représentant du président français pour la Syrie, se fait attendre. Enfin, Téhéran fulmine contre la réaction jugée tardive des autorités françaises après une manifestation de militants kurdes devant l'ambassade iranienne à Paris, avenue d'Iéna, le mois dernier. Des vitres avaient été brisées. Vous le comprenez, les griefs s'accumulent de part et d'autre.
Bertrand Galichet, c'est également aujourd'hui que des perquisitions ont été menées contre une association chiite à Grande-Synthe, dans le Nord. 3 personnes ont été placées en garde à vue ce matin dans le cadre d'une opération antiterroriste. Elle visait une association chiite, le centre Zara France, qui héberge plusieurs associations comme le Parti antisioniste, la Fédération chiite de France ou France Marianne Télé, soupçonnée de légitimer le djihad et de faire l'apologie de mouvements comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran. Cécile de Carvazoué.
Oui, et ce sont précisément ces liens avec le Hamas et le Hezbollah, groupes considérés comme terroristes par les États-Unis et l'Union européenne, qui ont provoqué ces perquisitions lancées par la préfecture du Nord ce matin. En tout, 11 personnes ont été arrêtées et 3 maintenus en garde à vue pour détention illégale d'armes. Parmi les gardés à vue, les 2 vigiles qui surveillaient l'entrée du centre et le fils du fondateur du centre, c'est-à-dire le fondateur Yahya Gwami. Mais ce dernier, lui, a été relâché avec les 2 autres dirigeants de ce centre Zara. Alors la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi ces perquisitions et surtout pourquoi aujourd'hui ? Le centre Zara est effectivement installé à Grande-Synthe officiellement depuis 2005. Et depuis 2005, son fondateur, Yahya Gwami, est connu pour ses prises de parole extrémistes. Cet homme politique et religieux est en effet à l'origine de la création, toujours à Grande-Synthe, du parti antisioniste créé en 2009 pour dénoncer ce qu'il appelle l'idéologie sioniste en France. Ce parti avait même représenté une liste aux élections européennes de 2009 et 2012 et Yahya Gwami y figurait aux côtés de Dieudonné et d'Alain Soral. Le centre Zara, très actif sur les réseaux sociaux, devient alors une plateforme de propagande antisioniste radicale, connue pour ses dérapages, par exemple lorsqu'il attribue la responsabilité des attentats de Charlie Hebdo au sionisme. Mais ce centre de Grande-Synthe est également connu pour ses liens avec l'Iran, puisqu'il abrite aussi la Fédération chiite de France, fondée toujours par ce même Yahya Gwami. D'origine algérienne, Yahya Gwami est un ancien boucher halal du Nord, converti à l'islam chiite. Et dans les années 70, il rentre en contact avec l'imam Khomeini. D'après une enquête du Daily Nord de 2009, il aurait également participé à un attentat visant un journaliste iranien à Londres dans les années 80. C'est lui qui permettra la rencontre également entre Dieudonné et l'Iran en 2009. Rencontre qui feront naître les accusations de financement par la République islamique iranienne des activités de l'humoriste français. Mais depuis 2014, les liens entre les alliés du parti antisioniste se sont fissurés. Les saisies d'ordinateurs de la perquisition de ce matin permettront peut-être d'y voir un peu plus clair.
Cécile de Carvazdoué, une fausse victime des attentats du 13 novembre 2015, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Alexandra Damien est jugée pour escroquerie et faux témoignage. Elle n'était pas à la terrasse du Carillon le soir où les clients attablés se sont retrouvés sous le feu des terroristes. Les 3 parties civiles dans cette affaire sont le Fonds de garantie des victimes de terrorisme dont la prévenue avait obtenu 20 000 euros d'indemnisation, l'Association française des victimes du terrorisme et l'Association de victimes des attentats Life for Paris. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
La prévenue a reconnu qu'elle avait menti et elle a présenté ses excuses aux victimes des attentats.
Effectivement, Alexandra Damien s'est avancée à la barre d'un pas décidé et la voix tremblante, elle s'est adressée au tribunal. Je viens vous dire que je suis coupable, je viens vous en expliquer les raisons, je viens demander pardon. La jeune femme vêtue de noir explique qu'elle est entrée dans la spirale du mensonge par sentiment de culpabilité. Son avocat, maître William Bourdon.
Elle habitait le quartier, certains de ses connaissances, des gens qu'elle aimait bien, sont morts. Elle aurait pu y être, et donc elle en a senti une espèce de souffrance dévastatrice, une souffrance où se mêlent évidemment mille culpabilités, et ensuite elle a endossé ce statut de victime. Je suis sûr qu'elle ne l'a pas endossé dans un souci monétaire, mais qu'elle l'a endossé parce qu'il y avait une espèce de refuge, de tanière douce, dans le fait de s'installer comme ça, dans cette identité de victime. Et d'ailleurs, elle a trouvé une profusion de compassion et de solidarité à la hauteur de ce que toute la société a prévu légitimement au regard des victimes d'attentats terroristes.
Rapidement après les attentats, la jeune femme intègre l'association Life for Paris. Elle se fait tatouer sur le bras la devise de Paris « Fluctuat nec mergitur ». Elle se prête volontiers aux séances de photos avec les médias et se répand sur les réseaux sociaux. Mais Alexandra Damien n'est pas simplement à la recherche de reconnaissance. Elle relance 10 fois le fonds de garantie des victimes du terrorisme et touche 20 000 euros qu'elle dépense aussitôt, notamment dans des voyages. C'est finalement l'incohérence de ces déclarations qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Le porte-parole de Life for Paris, Alexis Lebrun, ne cache pas sa colère.
C'est pas parce qu'elle habite à côté du Carillon qu'elle devient victime des attentats. Je veux dire, il y a des centaines de milliers de personnes qui habitaient dans le périmètre des attentats. Pour autant, ils se disent pas victimes d'un syndrome de culpabilité ou ils se lancent pas dans des procédures pour aller gratter de l'argent à droite, à gauche. C'est parfaitement ridicule. Les personnes qui ont le statut de victime, elles sont connues sur le plan juridique et c'est pas elles tout simplement. Donc il y a même pas à chercher. C'est complètement stupide en fait.
Pour la procureure, ce dossier est marqué par la cupidité. Elle a requis 18 mois de prison ferme.
Et le tribunal correctionnel rendra son jugement le 16 octobre. Le mondial de l'auto ouvrira ses portes au public jeudi, mais les professionnels sont déjà rassemblés, porte de Versailles à Paris. Et une vingtaine de patrons du secteur automobile sont allés dîner à l'Élysée hier soir. Le chef de l'État souhaitait saluer le dynamisme de l'industrie automobile en France et discuter de l'avenir du secteur avec le développement des voitures autonomes et propres. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Cette année, les constructeurs présentent justement de nombreux nouveaux modèles électriques.
Oui, avec les futures normes anti-pollution imposée par Bruxelles d'ici 2020, pas plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre, les constructeurs n'ont plus le choix. Si Renault avait de l'avance avec sa Zoé depuis 4 ans et sa future KZE qui sortira en Chine, une petite citadine, PSA qui a longtemps misé sur le diesel, doit sortir lui 7 modèles totalement électriques d'ici 2021. À commencer par la DS3 Crossback issue de sa marque Premium qui offrira 300 km d'autonomie notamment grâce à la récupération de l'énergie au freinage comme nous l'explique Yves Bonnefond, le directeur général de DS.
Sur DS3 Crossback E-Tense, sur les 300 km d'autonomie WLTP de la voiture, 30 km sont apportés par l'énergie qu'on récupère quand on freine. Et en ville, ça peut même aller jusqu'à 60 km d'autonomie récupérée grâce à la régénération au freinage. Donc techniquement, on voit que la voiture électrifiée est supérieure en termes d'efficacité d'utilisation de l'énergie à nos bons vieux moteurs thermiques dans lesquels au freinage, l'énergie elle est perdue et elle est d'une certaine manière gâchée.
Quant au japonais Toyota, l'un des plus gros constructeurs au monde qui a déjà arrêté le diesel, il ne croit pas au tout électrique. Il a fait le choix de l'hybride depuis 20 ans, qui combine à la fois un moteur thermique et un moteur électrique. L'hybride qui représente pour Toyota 70% de ses ventes. Didier Gambard, PDG de Toyota France.
Chacun des constructeurs a besoin de monter en puissance et en volume sur leur production de véhicules électriques pour baisser les coûts. C'est une loi mathématique et économique assez basique. Le marché des véhicules électriques, c'est 1%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pèse 4% à peu près sur l'hybride et 95% du marché reste sur des motorisations thermiques. Il est évident que cette bascule ne va pas se faire en l'espace d'un, deux ou trois ans.
Face à cette mutation de l'industrie automobile, la question de l'indépendance pour la fabrication des batteries, qui représente 40% de la valeur d'une voiture électrique, dont l'Asie détient pour l'instant le monopole, se pose selon Carlos Tabarès, le PDG de PSA.
Si les instances européennes et la France peuvent aider à accélérer la création d'un champion européen de la batterie, nous y sommes très favorables parce que ça nous donnera une indépendance plus forte et ça nous permettra de défendre la compétitivité de l'industrie automobile européenne.
Mais la bataille de l'électrique ne pourra pas se remporter sans une politique de développement des bornes de rechargement très ambitieuse.
Hakim Kasmi. Grosse surprise au Québec, lors des élections organisées dans la province, Coalition Avenir Québec, la plateforme de centre-droit dirigée par l'ancien homme d'affaires François Legault, s'est très largement imposée. La CAQ rafle 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale, une défaite historique pour le Parti libéral et le Parti québécois, Pascal Guéricola.
En fait, c'est un véritable renversement de tendance auquel on a assisté hier soir. Traditionnellement, le Parti libéral et le Parti québécois s'affrontent depuis 40 ans, se ravissant le pouvoir au gré des élections. Sauf que depuis l'échec du référendum de 1995 sur l'indépendance, le Parti québécois ne cesse de décliner. Jamais le parti fondé par René Lévesque n'a rassemblé si peu d'électeurs depuis 1973. Il faut dire que pour la première fois depuis des décennies, cette élection ne portait pas sur la souveraineté. Privé de cet épouvantail, le Parti libéral au pouvoir depuis 15 ans s'est lui aussi effondré. Il garde le pouvoir dans ses bastions de toujours, les circonscriptions de Montréal où votent surtout les anglophones ou les immigrants. Manifestement, cette élection traduit donc la soif de changement des Québécois qui se sont tournés vers des nouveaux venus. Québec solidaire, par exemple, un parti de gauche longtemps considéré comme rêveur. Et surtout, surtout, la coalition Avenir Québec, fondée il y a seulement 7 ans.
Et alors, dites-nous-en un peu plus sur la CAQ, cette coalition qui a littéralement balayé l'ensemble du Québec, Pascal.
Essentiellement, la CAQ et son chef, le millionnaire François Legault, veut diminuer la taille de l'État. Très soutenu par les régions rurales ou les banlieues où habitent les classes moyennes, ce parti remet aussi en cause le nombre d'immigrants soigneusement sélectionnés qui arrivent chaque année au Canada. Un sujet délicat car les entrepreneurs et les commerçants ont cruellement besoin de main-d'œuvre et cherchent à recruter à l'étranger. Québec solidaire, un parti sensible à l'inclusion, ne manquera pas non plus de rappeler au gouvernement la tradition d'accueil du Québec.
Merci Pascal Guéricola, correspondante de France Culture à Montréal. Au Royaume-Uni, standing ovation pour Boris Johnson devant les militants conservateurs. L'ancien ministre des Affaires étrangères a démissionné cet été pour protester contre les plans du gouvernement et un Brexit qu'il trouvait trop mou. À l'occasion du congrès des Tories à Birmingham, Boris Johnson réitère ses attaques, Antoine Gignot, contre les propositions faites par Theresa May à l'Union européenne.
Lorsqu'il demande aux militants de ne pas faire confiance à l'Union européenne, la salle applaudit. Et lorsqu'il parle de tromperie, les acclamations redoublent. Pour Boris Johnson, les propositions faites par Theresa May à Bruxelles sont un aveu de faiblesse. Il faut, dit-il, quitter le marché unique.
C'est dangereux et instable, politiquement et économiquement. Mes chers amis conservateurs, ça n'est pas ça la démocratie. Ça n'est pas ce pourquoi on a voté. Et c'est pour ça qu'il est temps de reprendre vraiment le contrôle, avec un accord sur le modèle du Canada qui noue un partenariat profond et spécial avec nos amis et partenaires européens. Il faut faire cette sortie élégante, digne et réussie hors de l'Union européenne.
Et l'ancien ministre des Affaires étrangères rappelle son récent voyage au Pérou. Mes prédécesseurs au gouvernement n'y avaient pas été depuis 20 ans. Il est temps de changer de perspective.
Notre stratégie globale, diplomatique, politique et commerciale, est restée centrée sur l'Union européenne. Ça avait du sens dans les années 70 quand on a rejoint le marché commun. Ça a beaucoup moins de sens aujourd'hui dans une économie globalisée, quand 95% de la croissance mondiale se fait à l'extérieur de l'Union européenne. Il est temps de recommencer à penser vraiment de manière globale.
Quant à la Première ministre, Boris Johnson ne dit pas qu'il veut prendre sa place, il ne l'attaque pas personnellement, mais il explique habilement qu'il faut la faire revenir à la raison.
Antoine Gignot, à Londres, un prix et trois lauréats. Le Nobel de physique est attribué à l'Américain Arthur Ashkin, mais aussi à Gérard Mourou et Donna Strickland pour leurs travaux sur les lasers et l'optique. Bonsoir Bénédicte Robin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir
le
à tous.
Le Français Gérard Mourou, 74 ans, est un spécialiste mondial des lasers.
Il a tout simplement révolutionné la physique des lasers, rien que ça, dixit l'Académie royale de Suède. En 1985, Gérard Mourou, accompagné de son étudiante de l'époque et donc aussi primé aujourd'hui, Donna Strickland, est parvenu à faire ce sur quoi tous les chercheurs bloquaient, à savoir allier puissance et rapidité sur un laser. En fait, il a trouvé comment créer des impulsions laser très courtes et très puissantes. Et ça, c'est très utile pour beaucoup de choses. Par exemple, on peut photographier la matière. Elle est figée tellement ça va vite. On peut donc observer des cellules, des atomes, reconstruire le film des mouvements. Mais cette matière figée, on peut aussi influer dessus. La lumière exerce une force sur la matière, en l'occurrence, avec un laser suffisamment puissant, suffisamment rapide, On peut par exemple sublimer de la matière, concrètement découper avec une infinie précision, d'où l'intérêt pour la chirurgie de l'œil. On utilise ces lasers pour opérer la myopie, la cataracte, le glaucome. L'industrie a aussi bien compris l'utilité. Une découpe parfaite, sans dégradation de la matière, c'est idéal pour l'aéronautique ou le spatial. Et d'ailleurs, en parlant d'espace, des recherches sont en cours pour voir comment on pourrait le nettoyer un peu de tous les débris qui l'encombrent en utilisant des lasers pour les pousser. Mais le lauréat du Nobel a aussi un autre défi, créer de la matière à partir du vide. Le faisceau laser viendrait perturber le vide, ça créerait de la matière, mais ça c'est pas encore pour demain.
Mais de beaux projets en perspective. Nobel de physique, les lasers récompensés, c'est le titre de l'article à retrouver sur le site franceculture.fr. Demain mercredi, le ciel sera souvent gris, mais il y aura de belles éclaircies sur le sud. Il fera 5 à 16 degrés le matin, 14 à 28 du nord au sud l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.